Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 1297 en ce samedi 8 novembre. J'espère que tout le monde va bien. Tout blues actuel avec un petit dans le rétro chaque samedi, c'est Sweet Home Chicago. Marc Loison avec vous pour 2 heures de blues sur Radio 666. Dans la première heure de cette 1297e émission, on revient sur deux nouveautés Frenchie, Lil Magic Sam et The Blues Kid Combo, dont l'album Gaston's Guitar est à gagner parmi de nombreux autres cadeaux sur le site de l'émission bluesradio.fr. C'est le deuxième samedi du mois, donc c'est My Rockers qui, dans son 64e numéro, invite l'éditeur et agent d'artiste Nicolas Miliani. Nous parcourons ensemble les éléments principaux de son univers musical, varié et bigarré, peuplé de rock et de blues, mais aussi de sons aux origines tentaculaires. Nicolas Miliani nous fait écouter pêle-mêle Mick DeVille, Eddie Mitchell, Jimi Hendrix ou AC/DC, mais aussi NTM, Uncle Tupelo, George Cessna, Steve Tallis, One Heart Boy, Bad Juice ou Martin Dupont. L'occasion de s'affranchir une nouvelle fois des frontières stylistiques pour mieux appréhender des univers musicaux à la fois riches, multicolores et porteurs d'émotions. Avec My Rocker, c'est donc aussi et surtout l'occasion de repousser ses propres bornes pour aller à la découverte de sons différents, quitte à en être touché. C'est également ce qui caractérise Nicolas Miliani, un garçon sensible aux belles vibrations d'où qu'elles viennent. Il a choisi Neil Young. Pour notre rubrique Future Years After, retournez-vous en 1975 bien sûr, avec cette fois-ci Freddie King pour son fabuleux Larger Than Life. On commencera par le disque du mois Western Smoke des Freaky Buds, ces Nantais qui ont poussé le goût du voyage et la passion du blues au point d'aller enregistrer leur album en Californie chez le magicien Kid Anderson. superbe album du mois signé les Freaky Buzz avec la bande à Max Genouel, Thomas Troussier, Longe et Hugo Devier. Un nouvel extrait à la fin de cette première heure. Et vous l'avez bien compris, on continue en French Blues avec The Blues Kid Combo. C'est son deuxième passage dans l'émission. Enzo Capadonna avec Laurent Basso, Léo Jiménez, Benoît Ribière et donc des chansons écrites et composées par Enzo Capadonna lui-même ainsi que Pascal Delmas et Neil Black. Il faut saluer ici un enregistrement signé Arnaud Fradin assisté par Antoine Escali. Voilà, tout ça c'est du Frenchy Blues, c'est chez Bluestrack et Inouï, ça s'appelle Gaston's Guitar. Voici I Gotta Go To School. The Blues Kid Combo, Enzo Capadonna, il est né en 2007, faites le calcul, est-ce qu'il faut toujours qu'il aille à l'école ou pas? Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'âge pour apprendre, on est bien d'accord. On continue en Frenchy Blues avec Lil Magic Sam, What We Gotta Lose, cet extrait de son album Tied Out.
All right.
L'album s'appelle Tired Out, il est signé Lil Magic Sam. Il y aura d'autres passages dans Sweet Home Chicago. C'est l'heure du rock, c'est l'heure de My Rockers, numéro 64, avec Nicolas Miliani. My Rockers numéro 64 aujourd'hui avec Nicolas Miliani. Bonjour Nicolas.
Salut Marc, ça va ?
Oui, très bien et toi ?
Très bien.
Bon, ben, très content de t'accueillir ici dans Sweet Home Chicago dans My Rockers. Tu es normand et exilé, j'ai l'impression, c'est ça ?
Oui, je suis normand. J'ai grandi à Vire et j'ai passé pas mal d'années à Caen. Et après avoir passé des années à Paris pour la vie personnelle et professionnelle, j'habite désormais à Marseille où j'ai fondé une famille.
Très bien. Alors Marseille depuis combien de temps ? Quelques années déjà ?
4 ans et demi.
D'accord. Nicolas, on va parler de tes activités tout à l'heure. Tu es agent d'artiste, tu es éditeur, mais avant tout, tu es un profond amateur de musique. Quand est-ce que ça a démarré ? Dans quelles circonstances ? Est-ce que tu as vécu dans un environnement familial qui aimait la musique, Nicolas ?
Au départ, pas spécialement, et finalement, après, oui, parce qu'en fait, on a eu des ruptures familiales qui m'ont amené à rencontrer des gens qui étaient assez mélomanes, donc notamment un oncle, en fait, qui était fan de rock, de Neil Young, notamment, du Velvet Underground, et de toute la scène new-yorkaise, Mink DeVille, etc. When the moon comes up, the sun goes down, we'll start to creep around. It's the flame of the blood, fire and breath. 14 names, not small or chest, got a rose tattooed on her thigh. Dead man raised a sigh, makes this young blood wine. My baby's got the Cadillac walk.
On va rappeler ton âge, tu fais partie de quelle génération ? Les boomers, les X, les Z ?
Alors, un peu du mal avec toutes ces appellations, je crois que je suis un millénial, je suis né en 1983.
D'accord, et ben voilà, donc jeune cadra qui a été influencé par des musiques qui existaient peut-être déjà avant ta naissance finalement.
Ouais, moi j'ai toujours aimé les musiques de vieux.
Les musiques de Daron.
Les musiques de Daron, les blagues de Daron, mais néanmoins, lorsque j'étais au début de l'adolescence, j'étais un fan de rap. Alors maintenant tout le monde écoute du rap ou autre. Moi, je me rappelle que quand j'étais au collège, dans les années 90, personne n'écoutait de rap, en fait. Les gens écoutaient Nirvana, ils écoutaient Sepultura, ils écoutaient Céline Dion, etc. Moi, j'étais fan de Nas, l'artiste américain. Je crois qu'il est de Chicago. J'étais assez fan de NTM également.
Seul dans la pénombre, avec mon passé, cherchant à me remémorer les joies, les raisons pour lesquelles j'encaisse la monotonie de cette vie. Plus désarmé qu'au premier jour, les années blanches de ma jeunesse se sont laissées passer. Quant au futur, j'ose même pas y penser.
Ouais, j'écoutais beaucoup de rap. Le côté agressif dans les beats me parlait pas mal. Et après, j'ai remonté un chemin classique, un peu comme dans les documentaires de Scorsese. J'ai remonté le fil et je suis arrivé à la base de ce qui nous unit, Marc, toi et moi, et tous les auditeurs et auditrices, je pense, c'est le blues.
Voilà, le blues. Alors, ce que tu viens de me dire me fait penser à une interview récente que j'ai pu avoir avec un certain D.K. Harold. I'm on my J.O.B. Open up your eyes and see that I'm grown now. I ain't begging for a loan, 'cause I make it on my own. Yes, I'm grown now. Put me through the test, I finally found success. I'm grown now. D.K. Harold, qui fait partie de la jeune génération des bluesmen noirs américains et qui me donnait l'exemple d'une conversation avec des jeunes, c'est-à-dire des gens de son âge. Il a 27 ans, le garçon. Mmh. Et comme quoi, le rap, c'était une musique de jeunes. Il leur disait régulièrement, mais non, le rap, ça date de plus de 40 ans. Ma mère a 48 ans, elle n'est pas toute jeune. Donc, vous dites que vous n'écoutez pas du blues parce que c'est une musique de vieux, mais le rap aussi.
Ouais, moi, je pense que si, quand on voit les programmations de certaines radios à l'heure actuelle qui font que de la musique urbaine, du rap, comme si ça venait d'apparaître, pour moi, dans ma tête, ça a 45-50 ans, quoi. J'ai 42 ans, j'écoutais déjà ça.
Voilà.
C'était pas tout récent. Après, le fait est peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de courants, à part l'électro, la French Touch et aussi le rap qui ont révolutionné la musique depuis. Donc forcément, on s'arrête sur le dernier.
My Rocker sur Radio 666, également sur bluesactu.com. Nicolas, My Rockers, c'est l'émission qui dit que beaucoup d'amateurs de blues viennent du rock. Revivez un pan de votre histoire musicale, viennent peut-être aussi du rap, tu viens de le dire, mais au niveau rock, alors tu citais tout à l'heure Neil Young, on va en parler plus avant, tout à l'heure en fin d'émission, on va même écouter un titre entier. Il y a d'autres artistes comme ça, des gens qui sont nés et qui étaient actifs avant ta naissance en 1983.
Bien sûr.
Quels sont les disques de chevet du Nicolas Miliani de 10 ans, 15 ans, 18 ans?
Alors, en piochant à la discothèque familiale, à l'époque, il n'y avait pas encore les plateformes de streaming. Il faut se rappeler, hein, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui écoutent que sur Spotify, mais on est avant Internet.
Ouais.
On est avant même Napster, etc. Une porte d'entrée dans la musique et les musiques rock, et un artiste que j'ai toujours beaucoup apprécié, c'est Eddie Mitchell.
Ouais.
Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur.
M'a permis de découvrir toutes les musiques rock'n'roll, Buddy Holly, Eddie Cochran, etc. Et aussi le versant countryisant avec ses albums Made in USA, tout ça. J'ai toujours apprécié écouter Eddie Mitchell. À l'époque aussi, je crois que le premier concert que j'ai vu, c'était Bernard Lavilliers.
Oui.
J'avais trouvé assez bête de scène, etc.
Il se lève, c'est long, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit.
Donc c'est pareil, des gens qui chantent en français mais qui ont des influences de musique plus exotique, on va dire. Et après, en fouinant, donc Lou Reed, le Velvet Underground, Led Zeppelin, les Doors, Jimi Hendrix beaucoup. Et Jimi Hendrix, donc bah forcément un pont vers le blues, hein, complètement.
Et oui.
She's walking through the clouds with a circus mind that's running around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she ever thinks of.
Tous les groupes des années 70. Et puis j'ai failli parler plutôt que de parler de Neil Young, un groupe dont j'ai toujours été fan, c'est AC/DC.
Mais voilà, tous les groupes que tu cites sont des groupes et des artistes qui ont été choisis par les 63 précédents invités, ouais, de My Rockers. Toi, tu as voulu prendre quelqu'un qui n'avait pas encore été choisi, je t'en remercie, mais ça aurait pas été un problème que tu choisisses AC/DC, hein, parce que c'est un groupe qui fédère finalement, même encore maintenant en 2025, ils viennent de le prouver en août dernier, je crois.
Ouais, moi j'ai jamais eu l'opportunité de les voir en concert, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais peut-être être un peu moins illégitime à parler de Neil Young que j'ai vu deux fois en concert que d'AC/DC, mais il y a un album que j'ai usé jusqu'à la moelle, un album live d'AC/DC, If You Want Blood, You've Got It.
Ah oui, époque Bon Scott, ouais, donc. Hein.
Ouais, moi je suis assez période Bon Scott, en fait. Je pense qu'après Back in Black, ça m'intéresse moins.
Back in Black t'intéresse quand même encore, parce que...
Back in Black, ouais, m'intéresse, parce qu'il y a encore la prod à l'époque, il y a le côté sombre, puis le son de l'époque. Après, c'est vrai que je suis moins sensible à la voix de... C'est Brian Johnson, ça.
C'est Brian Johnson. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, je sais pas si tu as écouté le dernier album de AC/DC, qui est sorti il y a déjà un petit moment, mais c'est leur dernier album en date, qui s'appelle Power Up.
Smile must just pass you by.
Power
ça,
Up.
Ça, je l'ai écouté.
Voilà, et moi, je ne sais pas si tu partages mon sentiment, mais j'ai vraiment écouté ça comme si c'était le volume 2 de Back in Black. On est revenu en 1980. Voilà, le son est là, la même ferveur, en tout cas en studio. J'ai trouvé que c'était un disque à la fois profondément contemporain et à la fois classique dès le départ, dès sa sortie, finalement.
Ouais, ouais. Bah, après, on retrouve, je trouve, du coup, la formule qui plaît, qui fait mouche et qui fonctionnera toujours, où tu as envie d'écouter ça dans ta bagnole, en fait, et de faire un peu un reset de tous les trucs auxquels tu penses dans ta vie quotidienne et d'y aller à fond, quoi.
Un peu à l'image d'un groupe de l'époque comme Angel City, à l'image de Airborne maintenant, ou même de ouais. Gunful qui existait il y a 50 ans et qui se sont reformés récemment et qui, encore dernièrement, font des concerts absolument flamboyants. Des jeunes hommes de 75 ans qui font du blues rock ou du hard rock, mais de façon phénoménalement juvénile, j'ai envie de dire. Ça continue aussi et ce sont encore des musiques qui t'intéressent, entre autres, Nicolas, peut-être.
Ouais. Bah, moi, tout ce qui est musique à guitare, ça m'intéresse toujours. Après, j'écoute de tout, hein. J'écoute de la musique classique, on travaille beaucoup avec des artistes musique du monde. Cette appellation est un peu généraliste, elle veut un peu rien dire et tout dire à la fois. Je suis assez ouvert, quoi. J'ai écouté beaucoup de chansons françaises aussi, un peu de classique, un peu de jazz, même si c'est pas la musique que je connais le plus. L'alternative country, j'ai eu ma grosse période avec la revue No Depression, les groupes comme Uncle Tupelo.
Oh, fear the hearts of men are failing, for these are latter days we know. Great Depression now is spreading. God's word declared it would be so.
Tous les groupes qui revisitent la country en font un truc un peu punk. Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle George Chesna.
On va découvrir ça parce que je ne connais pas. Merci de nous faire de nous donner des noms comme ça qui sont peut-être plus confidentiels que d'autres.
Donc bah voilà, oui, la passion, en fait, pareil qu'on écoute, on est bloqué dans ses premières passions, je pense que c'est un peu vrai, un peu faux, mais en tout cas, si on arrive à faire évoluer ça et pour l'écouter avec fraîcheur, c'est super, quoi.
T'as dit un truc tout à l'heure intéressant, Nicolas Mignani, comme quoi j'écoute aussi du jazz, mais je suis pas spécialiste. Est-ce qu'on a besoin d'être spécialiste pour que la musique aille droit au cœur, finalement?
Pas du tout.
Bon, on est d'accord.
Pas du tout, et j'ai pas trop envie, justement, de... Je pense pas qu'il faille partir dans l'encyclopédisme. Oui. À chaque fois, on peut apprécier les choses et savoir les apprécier sans forcément en faire des tonnes et des conférences dessus, en fait.
Voilà, tout à fait. On peut être pilote d'automobile sans être gargiste.
C'est ça.
C'est ça l'idée. Hein. Nicolas, une question importante quand même par rapport à ton parcours. Est-ce que toi-même, tu es musicien?
Alors, pas du tout.
Tu n'as jamais essayé?
Ouais, j'ai vaguement essayé de faire un peu d'harmonica.
Comme disait Jean-Jacques Milteau, l'accordéon c'est le piano du pauvre, alors je te raconte pas l'harmonica.
Voilà, c'était le piano du pauvre, mais non, mais c'est pas une frustration, j'ai toujours fait beaucoup de sport, j'aurais pu faire de la musique aussi, mais c'était réservé à mon frère dans la famille, on va dire.
Ah oui, d'accord.
Je n'ai pas de pratique instrumentale particulière.
Mais assez rapidement, tu t'es aperçu que tu pouvais être utile dans le monde de la musique autrement, sans en jouer, mais en t'occupant des musiciens, d'une manière générale, c'est ça, hein?
Ouais, parce que je pense néanmoins avoir une bonne oreille, un bon sens artistique. Je ne frémis pas de mes goûts, je suis assez sûr de moi dans mes appréciations et je pense que j'ai un très bon sens commercial, ce qui m'a permis de promouvoir et de travailler dans à peu près tous les domaines de la musique et de son exploitation.
Alors d'une part, tu es agent d'artiste, là tu viens un peu de décrire cette partie de tes activités, mais également éditeur. Qu'est-ce que tu édites? Ce sont des albums, ce sont des livres, c'est autre chose?
Alors l'édition musicale, en fait, ça vient de la production des partitions graphiques au départ. Donc l'édition musicale a proprement parler, là, tel qu'on l'entend, c'est pas l'édition phonographique qu'on fait aussi, donc ça c'est l'exploitation de ce qu'on pourrait appeler être un label, produire des albums ou les distribuer, les faire vendre, etc. L'édition musicale, c'est la gestion des droits d'auteur et c'est de faire qu'une œuvre musicale qui est composée par des auteurs, des compositeurs et arrangée éventuellement par des arrangeurs, des arrangeuses, compositeurs, compositrices, autrices, et de faire en sorte qu'il y ait des exploitations commerciales autour de cette œuvre. Donc on on va travailler sur la musique à l'image, on va faire en sorte que cette œuvre elle soit interprétée peut-être par les auteurs originels, mais aussi par d'autres interprètes, qu'il y ait des exploitations sur scène. Donc on est sociétaire à la SACEM et en gros on gère les droits, on administre, on surveille que tout soit en ordre au niveau juridique et on donne une exploitation commerciale à celle-ci.
Donc tout ça, c'est une activité qui est à la fois essentielle et puis passionnante, que ce soit dans des termes techniques, avec des routines, on va dire, et puis également dans la création artistique. C'est quelque chose de très complet ce que tu fais en fait.
Exactement. En fait, moi je pense que c'est le métier le plus complet dans tous les métiers de la musique. C'est pour ça que c'est celui qui m'intéresse le plus, avec la partie aussi relations presse qu'on fait aussi. Donc l'édition musicale, c'est à la fois, on a un pied dans l'artistique, un pied dans le commercial, un pied dans les relations humaines, dans le juridique. On est au cœur même de l'atome, en fait, de la création de l'œuvre, en fait.
Et donc, Nicolas, tu as fondé une société qui s'appelle Nicolas Miliani Productions, c'est ça ?
Elle a eu plusieurs noms. Maintenant, elle s'appelle Miliani parce que ça permet d'exercer tout un tas d'activités, en fait, sans restreindre par l'appellation production. Les gens pourraient être amenés à penser que c'est que de la production, édition, que c'est que de l'édition, etc. Donc là, ça nous permet de travailler sur un peu tous les items qu'on a cités.
Quels sont les artistes dont tu t'occupes actuellement, Nicolas ?
En promo, il y a pas mal d'artistes que tu connais. On travaille sur la sortie, là, en bac de l'album de Steve Tallis. Skin to skin. Love's burning pain cannot be hidden by a hypocrite's cloak. I'm dripping with passion. I'm melting with desire. Your eyes excite me. Feel like I'm on fire. On travaille aussi sur un EP d'un groupe de rock français qui a exhumé une cassette d'un groupe qui s'appelle Foo Flash. On travaille avec un artiste qui est plus dans l'Americana Alternative Country, Nelson Bellebronx, et puis aussi Thio Manuel. Manuel, que tu connais bien.
Et oui, quand j'ai pu saluer l'autre jour, c'était au Bar Festival du côté de Chinon.
Ouais, il m'a dit le week-end dernier.
Voilà, un garçon bourré de talent et prometteur qui a déjà à sa tête 8 albums, je crois, et qui est en train de travailler sur le suivant et qui va être un prochain invité du My Rockers d'ailleurs.
Et c'est parfait.
Parce qu'il a aussi plein de choses à dire.
Ouais, il a des influences diverses, un parcours assez complet avec plein d'influences. Le single Fall qui sort donc le 17 octobre et un album qui est prévu pour début 2026, son 9e album. On travaille aussi avec un artiste donc là qui est en édition, qui s'appelle One Year Boy, que je t'enverrai. Donc il y a un premier EP qui sort le 5 décembre.
D'accord.
Là, c'est assez inspiré du blues, mais c'est très arrangé. Ça évoque quand même pas mal les groupes de rock anglais avec des chœurs, des orchestrations, etc. Et puis après, on a pas mal d'artistes en édition. On a Rocío Márquez. Con un ala rota, la lontra encana, en la jaula de sí misma le canta. qui est une star du flamenco, qui a eu une victoire de la musique en France. On a un groupe qui pourrait d'ailleurs te plaire aussi.
Et plaire aux auditeurs par la même occasion.
Ouais, qui s'appelle Bad Juice, ouais. Un groupe de Strasbourg.
Once I was down, I grabbed my gun. And I tried to put my wife back in her place. Well, she lost her way, and she walked me down. I blew her hand as I came around.
Bad Juice, assez rock blues. On est en train de signer la coédition avec un groupe culte de la scène New Wave qui s'appelle Martin Dupont, que je t'enverrai également, qui jouera au Transmusical. On en a plein de choses assez variées.
Mais c'est ça un peu qui fait l'ADN de ce que tu aimes dans tes influences. Tu nous citais tout plein de styles musicaux et c'est ça aussi qui fait la richesse. Et ça te permet peut-être aussi, tu vas me dire si je me trompe, de tenter de faire programmer des artistes dans différents événements, que ce soit des festivals typés blues ou typés rock ou typés généraliste ou typés jazz, de manière un petit peu plus décloisonnée. Je pense par exemple à quelqu'un qui s'appelle C6 Steve. Steve, que tu connais forcément, et
oui.
qui a pu jouer sur la grande scène de Bourgard, alors que tu peux aussi le trouver dans un bistrot devant 12 personnes un peu éméchées et qu'on n'a rien à foutre de sa musique. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi cette espèce de plafond de verre qui fait qu'on peut d'un style à l'autre, comme ça, s'interpénétrer et puis profiter du public des autres par l'intermédiaire des premières parties, bien souvent, parce que quand on va voir un artiste, s'il y a une première partie, par définition, 99% des gens ne le connaissent pas, à part sa fanbase. C'est ça aussi la musique, c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui se métisse et qui se nourrit d'elle-même. Même, Nicolas.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, totalement. Je pense que en fait, on s'en fout maintenant de l'appellation parce qu'il y a tellement de, comme tu dis, d'interpénétration, des styles, etc. Après, le paysage, en plus, il a beaucoup changé, il évolue constamment dans les usages, etc. Donc, je pense qu'il faut pas trop s'arrêter sur des étiquettes et juste si on pense que les influences artistiques du projet permettent de rentrer dans telle ou telle porte, il faut pas avoir de scrupules. Tâcher de l'ouvrir en fait.
Voilà, ni scrupule ni complexe, et de toute façon il y a un seul témoin du fait qu'on aime ou pas cette musique là, c'est les oreilles, c'est le cœur, c'est le cerveau et puis les tripes.
C'est ça.
Peut-être aussi.
Les tripes.
Comment est-ce qu'on fait pour aller sur ton catalogue? Je pense aux quelques directeurs festivals qui écoutent de temps à autre l'émission et qui diraient: tiens, Nicolas Mignani, ça m'intéresse de travailler avec lui parce qu'il a des artistes que je connais pas. Comment on fait pour aller chez toi?
Alors il y a un site internet qui s'appelle Mignani, MILIANI.biz, BIZ, et puis sinon, il y a un compte Instagram du même nom et c'est assez facile de trouver notre contact sur Internet. Sinon, je peux le donner en fait. Nicolas@Mignani.biz. Voilà.
Sur ton site, je suis dessus actuellement, créé en 2010 par Nicolas Mignani. La société Mignani propose des services 360 degrés, édition musicale, conseil en stratégie, supervision musicale, management et relations presse, etc. Voilà, il y a plein de choses intéressantes à y découvrir. Mignani.biz.
Just gotta go on.
On va en arriver à ton coup de cœur, Nicolas. C'est quelqu'un, pas forcément qui résume tout ce que tu viens de dire, parce qu'il n'a pas non plus touché à tout, mais d'un disque à l'autre, malgré le fait qu'on le reconnaisse, parce qu'il a une voix qu'on reconnaît entre mille, et même s'il intervient en électrique, et Dieu sait s'il y a des watts derrière, c'est un garçon qui fête ses 80 ans cette année, et qui se fait vibrer depuis longtemps. Hein.
Ses 80 ans, là, en cherchant un peu, en préparant, j'ai vu qu'effectivement, donc il est né en 45, il est canadien, il me semble. J'ai eu la chance de le voir deux fois en concert, une fois en 2007 et une fois en 2008 ou 9 au Zénith de Paris. 2007, c'était au Grand Rex, et c'est vrai que c'est un concert qui m'avait mis une claque. Une heure et quart, une heure et demie de set, justement, comme tu le disais, acoustique. Et puis après, une heure et demie de Saint-Amart électrique avec du gros bousin comme on aime, mais hyper bien maîtrisé. C'est vrai que sa voix, c'est haut perché, elle peut... Je pense qu'elle plaît ou pas. Moi, je trouve qu'elle est bien utilisée, en fait. Elle me plaît assez, on va dire. J'aime bien, en fait. Je trouve qu'il résume quand même pas mal toute la musique nord-américaine avec toutes ses influences. Je pense qu'il a... Pour moi, il fait partie des grands du monde du rock, en fait, qui ont apporté beaucoup de choses et qui ont inspiré beaucoup de gens, notamment l'album dont on va parler, qui a, je pense, préfiguré ou qui était déjà dans l'esthétique grunge du début des années 90.
Voilà, parce qu'il peut en montrer à plein d'autres et encore maintenant. Alors, Nicolas, nous sommes le 8 novembre 2025, jour de la diffusion de ce My Rockers numéro 64. Et dans 4 jours, le 12 novembre, Neil Young va fêter ses 80 ans. Il est né à Toronto, le garçon, et il est toujours actif, bien entendu. Alors, juste avant que tu parles de Rage and Glory, c'est l'album que tu as choisi, juste une question un petit peu débile, mais c'est la mienne. Pourquoi pas Harvest? Parce que c'est quand même l'album emblématique du début de la carrière de Neil Young.
Alors, pourquoi pas Harvest? En flagornerie, je pense que je connais assez bien une bonne partie de sa discothèque et que c'est pas l'album que je préfère. Ça veut pas dire qu'il y a pas des très bonnes chansons, mais c'est pas celui que je mets en premier sur ma platine si j'ai envie d'écouter Neil Young. J'aime bien l'album Zuma, j'aime bien On the Beach, j'aime bien les Live Weld, donc période très électrique ou autre. Mais j'aime bien Harvest, hein, mais Rage Glory, je sais pas pourquoi, il m'a tapé dans l'œil et je trouve qu'il y a un côté jubilatoire à l'écoute.
Alors Harvest, ça va être pour le matin au petit-déj, tranquillou, on se réveille, on prend le premier café. Et puis Rage on Glory, c'est plus vers 22h, quand les voisins, ça commence à les faire chier que tu montes le son, parce que l'électrique, c'est plus ton truc que l'acoustique, finalement, Nicolas.
Pas vrai, non, bah...
oui et non, docteur.
Oui et non, parce que en fait, j'ai pas parlé, mais j'aime aussi toutes les musiques funk qui groove aussi, quand on a pas parlé, mais voilà, il y a plein de trucs. Je pense que quand on aime la musique, je pense qu'on aime la musique, on aime découvrir des choses, etc. J'aime bien l'aspect acoustique de Neil Young me parle, son aspect électrique, mais en tout cas pour à titre d'album, celui-là, je sais pas pourquoi, quand je l'ai écouté, il m'a plu. Mmh. Il m'a plu comme le tout premier Clash m'a plu, un album des Sex Pistols que je trouve génial, ou l'album de Live dont on parlait de la CDC, en fait, cette espèce d'énergie qui sent la sueur, en fait, ça me parle, quoi.
Ouais. Alors je fais la parenthèse sur ce que tu viens de dire, là encore je rebondis, parce que quand on aime la musique, on aime la musique. Moi, j'ai autour de moi des gens qui disent quand on aime le blues, on écoute que du blues. Bon, ben voilà, c'est un parti pris. Mais j'ai envie de dire, quand on fait quelque chose, on fait rien d'autre, parfois. Donc,
oui.
C'est toujours un choix.
Oui, c'est un choix. Après, moi, oui. Après, chacun, ça, heureusement qu'il y a des visions qui sont divergentes et diverses.
Évidemment, ouais.
Moi, j'ai une approche du blues par d'autres biais. Le blues me plaît aussi quand il est en lien avec d'autres choses et qu'il peut évoquer d'autres choses.
Ouais. Ah bah, de toute façon, voilà, le blues, si tu écoutes du blues millésimé 2025, par exemple, hein, donc à peu près de la moitié de ce qui passe dans l'émission, eh bien, ce sont des choses qui vont tendre une fois vers le reggae, une fois vers la folk, une fois vers le rock'n'roll, etc. Le blues est une musique séminale qui se nourrit de ses propres enfants, et c'est en ça que le blues actuel, c'est quelque chose de fondamentalement fascinant. Bah, ça reste mon avis, hein, je peux le partager, bien sûr.
Oui, voilà. Oui, c'est bien quand ça évolue, que ça.
C'est ça, c'est ça.
Des fois, même si ça revient au début, en fait, c'est pas grave, en fait, du moment que c'est un cycle. En tout cas, moi, j'ai besoin d'énergie, d'une bonne maîtrise vocale. Par maîtrise vocale, j'entends juste d'une voix, en fait, qui a quand même une émotion, en fait, qui sort. Et voilà, d'une bonne mélodie, quand même si c'est pas forcément la complication qui me parle le plus. Mais une bonne chanson, elle doit avoir quand même certains de ces arguments-là. Et dans les productions actuelles qu'on entend sur certaines radios, je trouve qu'en fait, des fois, on fait un peu passer des vestiges pour des lanternes. Et la comparaison est rude quand on a la chance d'avoir écouté de la musique depuis longtemps, le référentiel est assez élevé, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors ça, vraiment, ça me fait réagir aussi. Puis j'ai envie de te demander maintenant, est-ce que tu peux te faire l'avocat de cet album Rage and Glory, puis peut-être aussi du titre que tu as choisi, Nicolas, parce que on va écouter ça avec impatience maintenant.
L'avocat de cet album, déjà la pochette. Moi, cet album-là, je l'ai découvert, il me semble, en vinyle. On a l'impression qu'on voit l'intérieur de sa grange à travers un œil de Judas déformant. Il y a une esthétique début 90, chemise à carreaux, guitare électrique. Il y a des morceaux, en fait, qui sentent la grange et le studio, en fait, branchés sur des watts, comme tu dis. Que te dire de plus? Des bonnes chansons qui restent en tête et qui donnent envie d'écouter ça. Ça, c'est pour moi, c'est un marqueur, c'est un bon thermomètre d'écouter ça en conduisant.
D'accord.
Si t'as envie d'écouter ça en conduisant, c'est bien.
Bon,
parce que c'est très évocateur. Et voilà, il y a une énergie un peu à la fois de maîtrise adulte, on va dire, d'expérience, et il y a une fougue de jeunesse qui est encore là, quoi.
Ah, ça, c'est très bien résumé. Alors, ça m'amène à une toute dernière question, parce que Neil Young, c'est pas quelqu'un qui laisse indifférent, que ce soit musicalement, mais également politiquement. C'est quelqu'un qui est porteur d'un message. Est-ce que tu adhères également à ses idées politiques, disons-le?
Bah, il s'est toujours battu en fait pour ce en quoi il croit. Ça, à la limite, oui, il a défendu en fait des choses au niveau même de la production musicale. Il avait créé un lecteur musical Pono pour que les gens écoutent de la musique en bonne qualité. Il a fait des albums sur des chansons, il me semble, sur Monsanto. Je pense pas qu'on puisse être content de s'empoisonner, donc oui.
Et également, je pense qu'il est à peu près impossible de calculer le nombre d'albums édités par Neil Young, parce qu'il y a eu une période où il en faisait un par jour, je crois.
Ouais, je comprends. À vrai dire, moi, je comprends pas tout, en fait, parce que avec les sorties de ses anthologies, les coffrets, les albums qui ressortent, qui étaient pas sortis dans les années 70, qui sont le deuxième version de Chrome Dreams, mais c'est pas le deuxième, c'est le premier. Il faut s'y accrocher, en fait.
Ouais. Neil Young est un garçon fascinant qui continue, bien sûr, de tisser sa toile partout autour du monde et que, malheureusement, j'ai jamais vu sur scène. Ce sera peut-être le cas un jour, je ne sais pas, mais voilà. Dans cet album Rage and Glory, sorti en 1990, tu as choisi un titre qui s'appelle Funking Up. Je l'ai retrouvé sous un autre nom, F, avec plein de trucs censurés.
Ouais,
Hop.
Il est marqué avec des insignes. Dièse, hashtag, arrobase, etc.
C'est ça. On peut éventuellement comprendre pourquoi. Voilà. Merci Nicolas pour tout ça. Je ne sais pas si tu as un truc à rajouter en cette fin d'interview.
Eh ben, je te remercie beaucoup de l'invitation. Ça fait toujours plaisir de discuter musique et merci de continuer à faire des émissions de radio qui permettent de parler de styles musicaux qui ont toute leur place dans le panel médiatique.
Merci beaucoup pour ça, Nicolas. Et puis tout de suite, on écoute Neil Young avec Fucking Up, extrait de Rage and Glory. À très bientôt. Salut.
À bientôt. Merci.
Salut Nicolas.
Salut.
My Rocker sur Radio 666, également sur bluesactu.com. C'était Nicolas Miliani pour ce 64e My Rockers. On a pu écouter Mick Neville avec Cadillac Walks, Supreme MTM, J'appuie sur la gâchette, DK Harrell, Grow Now, Eddie Mitchell, Pas de Boogie Woogie, Bernard Lavillier, Idée Noire, The Jimi Hendrix Experience, Little Wing, AC/DC, If You Want Blood, You Got It et Realize, Uncle Tupelo, No Depression, George Cessna, Leave Me Alone, J.J. Milto, Easy Mountain, Steve Tallis, Jezebel Is on the Prowl, Tio Manuel, Fall, La Caïda, One Heard Boy, Daddy Long Legs, Bronchio et Rocio Marquez, Una Alla Rota Garutin, Bad Juice, Family Man, Martin Dupont, You Smile When It Hurts, C6 Steve, Summertime Boy, Restaurant, Hot Rod Pose, et puis Neil Young avec son Crazy Horse. On était en 1990 sur l'album Rage Glory avec Over and Over, et puis le titre entier, Fucking Up. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité, ce sera Rocco Barra, qui lui va nous parler de Led Zeppelin. Voici 50 Years After maintenant. 50 Years After, c'était il y a 50 ans pile. Freddie King, It's Better to Have and Don't Need, une reprise de Don Covey sur l'album Larger Than Life. On est en 75 chez RSO. C'était Freddie King avec It's Better to Have and Don't Need sur l'album Larger Than Life en 1975. C'est pratiquement la fin de cette première heure du 1297e Sweet Home Chicago. Voici un nouvel extrait du disque du mois, toujours Western Smoke par les Freaky Buds. Ça s'appelle Guilty.
That I'm guilty. I got to tell you my real story. With
my heavy soul and my brand new hopes. I met an angel with hell on fire, and it felt like everything would be fine. A world of music, her outfit of light. Everything on her was made of your gold. That I'm guilty. I gotta tell you my real story. With my heavy soul and my brand new hope. It took a while, but it finally did. My red angel turned into the devil. The fire of a hell was burning my head. The light of her eyes was blinding my sight.
Espèce de force irrésistible, un morceau à écouter en voiture sur la route 66, bien évidemment. Un album enregistré chez Kid Anderson à San José par les Freaky Buds avec le titre Guilty. On se retrouve dans quelques secondes avec notre invité de la deuxième heure. Il s'agit d'Olivier Mas. À tout de suite.